Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un des hommes les plus puissants du quinquennat Sarkozy, derrière les barreaux, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, est incarcéré depuis ce matin à la prison de la Santé. C'est l'affaire des primes en liquide, place Beauvau. Il reconnaît les faits, mais n'a pas le sentiment d'avoir imposé une contrainte. Yannick Agnel, mis en examen pour viol, relation à plusieurs reprises. La procureure de Mulhouse apporte cette autre précision ce matin pour expliquer la mise en examen.
Il existe une différence d'âge importante entre les 13 ans, qui était l'âge de la jeune victime, et les 24 ans de Yannick Agnel au moment des faits.
Détail dans quelques minutes. Un peu plus d'argent pour lutter contre l'inflation, le chèque énergie, la prime inflation distribuée à partir d'aujourd'hui et la rémunération du livret A va augmenter. Et les salaires vont-ils suivre? Invité du 13-14, le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. Vos questions au 01 45 24 7000. Dans ce journal encore, le variant Omicron au Royaume-Uni, un premier mort. Emmanuel Macron en Hongrie, chez Viktor Orban. La concurrence devient concrète sur les lignes TGV, le Paris-Lyon. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions en foot, Manchester United face au PSG, Chelsea contre Lille. Et puis vos rendez-vous habituels dans le 13-14, le feuilleton jusqu'à vendredi, immersion dans une école basque. Et Zabou Bretman avec Frédéric Pommier dans C'est une chanson, nous écouterons du jeune âge. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est une chute vertigineuse. Un ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée en prison. Claude Guéant, bras droit de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président, a été incarcéré ce matin à la Santé à Paris. C'est une condamnation de 2017 qui entre en application à faire des primes en liquide au ministère de l'Intérieur. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
L'ancien ministre affirme ne pas avoir l'argent pour payer l'amende.
Oui, Claude Guéant affirme effectivement depuis des mois qu'il ne peut pas rembourser sa dette plus qu'il ne le fait depuis 2 ans. Une dette auprès du Trésor public qui s'élève à 190 000 euros et qu'il n'a remboursé qu'au tiers et encore grâce à plusieurs saisies. Et c'est bien ce qu'avait plaidé son avocat Philippe Boucher-Elgozy.
Si on mettait en prison toutes les personnes qui ne payent pas assez vite leurs dettes, je pense qu'il faudrait créer des milliers de places de prison rapidement. Là, il paye depuis 2 ans 3 000 euros par mois, il ne peut pas payer plus et on le met quand même en prison pour ça. Il y a eu d'ailleurs des enquêtes très solides qui ont été faites pour voir effectivement la réalité de sa situation. On n'a pas trouvé d'argent caché, on n'a pas trouvé de compte en banque caché. Et alors qu'il ne peut pas payer plus, eh bien on a quand même décidé de l'incarcérer. Voilà.
Claude Guéant a été placé sous écrou pour les 9 prochains mois. Son avocat va saisir le juge d'application des peines pour tenter d'obtenir un aménagement en lien avec l'état de santé préoccupant de son client, âgé de 77 ans après plusieurs opérations cardiaques.
Et est-ce que la justice, Emmanuel, s'interroge sur l'insolvabilité de l'ancien ministre?
Eh bien, dans son arrêt début novembre, le ministère public avait constaté que Claude Guéant avait apparemment vendu des objets de valeur pour plus de 45 000 euros l'année dernière, mais qu'il avait aussitôt fait des virements pour les 3/4 de la somme à son fils et à 2 proches. Pareil pour une assurance vie versée à son fils, un peu plus de 25 000 euros. Le parquet général écrit surtout que de janvier à septembre 2020, Claude Guéant avait dépensé des milliers d'euros pour des restaurants, des nuitées d'hôtel et des places de théâtre. Tout cela à une période où la plupart des établissements étaient fermés pour cause de confinement et de Covid.
Claude Guéant incarcéré donc ce matin à la prison de la Santé à Paris. L'actualité judiciaire, c'est aussi cette question. Que reproche-t-on à Yannick Agnel? Le double champion olympique et mondial de natation est mis en examen depuis samedi pour viol et agression sexuelle. La procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, en a dit plus ce matin. Les faits remontent à 2016. La jeune fille qui a porté plainte avait 13 ans à l'époque.
Si les faits sont effectivement constitutifs de viol ou d'agression sexuelle, c'est parce que il existe une différence d'âge importante entre les 13 ans, qui était l'âge de la jeune victime, et les 24 ans de Yannick Agnel au moment des faits. Il reconnaît la matérialité des faits, mais dans le même temps, il n'a pas eu le sentiment, effectivement, de placer cette jeune femme sous contrainte.
Voilà, il reconnaît donc la matérialité des faits. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
La clé de cette affaire, Ariane, c'est donc l'âge de Yannick Agnel et de la jeune fille qui a porté plainte.
Oui, puisque l'ancien nageur a admis avoir eu, il y a 5 ans, des rapports sexuels avec la fille de Lionel Orter, qui était à l'époque son entraîneur. Yannick Agnel et la jeune femme ont 11 ans de différence, comme vient de le rappeler la procureure. Or, insiste Edwige Roux-Morizot, cette différence d'âge peut induire une contrainte.
Quand bien même on pourrait estimer qu'elle était consentante, ça tombe quand même sous le coup de la loi. Ce sont des critères qui sont toujours appréciés, même si ils ont été reconnus par la loi, mais qui faisaient déjà partie de l'appréciation absolue des procureurs de la République et des juridictions. La différence d'âge peut valoir par hypothèse contrainte morale.
Les faits se sont produits à plusieurs reprises pendant cette année 2016 à Mulhouse, mais aussi à l'étranger, Thaïlande, Rio, Tenerife. Interrogé sur le conflit financier qui oppose en ce moment Yannick Agnel et son ancien club de Mulhouse, la procureure précise qu'elle ne voit pas de lien entre la la plainte de la jeune femme. Et cette affaire, en tout cas, on l'imagine, dit-elle. Edwige Roux-Morisot explique qu'il y a de très nombreux éléments dans ce dossier. Et c'est d'ailleurs face à tout ce qui lui a été présenté que le nageur en garde à vue a fini par reconnaître les faits.
Et il est donc mis en examen, mais laissé libre sous contrôle judiciaire. Alors il y a les affaires médiatiques et puis toutes les autres, les dossiers qui s'accumulent. Mercredi, une fois n'est pas coutume, avocats et magistrats seront côte à côte, les greffiers aussi, pour une journée de mobilisation générale. Tous demandent des moyens dignes pour la justice. Trois semaines après l'apparition d'une tribune de magistrats signée par plus de la moitié de la profession. Bonjour Jean-Philippe Deniau.
Bonjour Bruno.
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, organisait une conférence de presse ce matin. Il répond par avance, Jean-Philippe, aux manifestants.
Oui, nous payons aujourd'hui le fruit d'une dizaine d'années d'abandon de la justice. Éric Dupond-Moretti a donc choisi de répondre à la tribune des magistrats et greffiers avec une avalanche de chiffres ce matin illustrant son action depuis 18 mois. Nous avons été au rendez-vous, insiste le ministre. Ces résultats tranchent avec la clochardisation que dénonçait son prédécesseur Jean-Jacques Urvoas.
Mais ensuite, il y a un ressenti qui est un ressenti cruel, difficile, douloureux, exprimé. Mais tout ça, ça ne peut pas se réparer comme ça en un claquement de doigts. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, cette tribune, elle a surpris beaucoup de monde. Elle est arrivée vite, rapidement. Ça a été un choc pour nous tous.
Alors, pour répondre à la tribune qui comptabilise aujourd'hui 7500 signatures, Éric Dupond-Moretti annonce une hausse des effectifs magistrats et greffiers, des cellules psychologiques dans les juridictions et des audits dans chaque tribunal pour réduire les stocks des affaires en souffrance.
Mais encore une fois, c'est pas un travail qui se fait comme ça rapidement. Il faut du temps, d'abord pour expertiser ça, le faire objectivement. Moi, je veux m'inscrire dans une fermeté, mais également dont l'humilité.
Et je resterai le ministre de l'équilibre et de la nuance, conclut Éric Dupond-Moretti, qui n'ira pas à la rencontre des magistrats qui manifesteront un peu partout en France mercredi.
Un incendie ces dernières heures dans un immeuble de Saint-Denis de la Réunion. Le bilan est d'au moins 5 morts.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Quelle sera la place du sujet inflation et pouvoir d'achat dans la campagne présidentielle? Deux informations en 13 décembre. Alors que la hausse des prix est de 2,6% et que l'augmentation des tarifs gaz, électricité sur les marchés de gros se poursuit. Petit 1, à partir d'aujourd'hui, le chèque énergie et la prime inflation commencent à être distribués. Et puis petit 2, le taux du livret A va augmenter l'année prochaine. C'est une annonce du ministre de l'économie ce matin. De combien? Il ne le dit pas pour l'instant. Alors c'est vrai Fabien Cazot, qu'en cette époque de hausse des prix, le livret A devient moins intéressant.
Oui, c'est sûr qu'avec une inflation à 2,6%, vous le disiez, et un taux du livret A historiquement bas à 0,5%, c'est mathématique, l'épargnant perd de l'argent. Et ce qu'on craint du côté de Bercy, c'est que ce grand écart en rajoute dans la perception de perte de pouvoir d'achat. Dans trois semaines, les détenteurs de livret A ne pourront que constater la maigreur de leurs intérêts annuels. Donc maintenant, la question, c'est de savoir à combien le taux de rémunération sera relevé. Ouais. Le président du cercle de l'épargne, Philippe Crevel nous livre son calcul.
Il est probable que le gouvernement remonte entre 0,8 et 1 point le taux du livret A, sachant que la formule, c'est la moyenne de l'inflation des 6 derniers mois et la moyenne également des taux des marchés monétaires qui sont très très faibles, qui sont négatifs. Vous faites la moyenne et on est aux alentours de 1%.
Voilà, 0,8 à 1%, autant dire que les épargnants resteront perdants face à la hausse des prix qui devrait se prolonger selon les dernières prévisions tout au long de l'année prochaine. D'ailleurs, la décollecte, c'est-à-dire les retraits nets du livret A, ont battu un record en octobre dernier, près de 3 milliards d'euros, record depuis 7 ans. Le livret A reste malgré tout en valeur le placement préféré des Français, avec 343 milliards d'euros d'épargne sécurisée qui somnolent dessus.
Il y a trois façon de lutter contre la poussée de l'inflation, dit le ministre de l'économie. Protection contre les prix de l'énergie, protection contre l'augmentation des prix de la consommation courante et augmentation des rémunérations. Alors 2022 sera-t-elle l'année des hausses de salaire? Où en sont les négociations? Question à 13h30 au secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. J'attends vos questions à vous et vos témoignages. Est-ce qu'on négocie dans votre entreprise ou secteur professionnel? Est-ce que les salaires vont augmenter chez vous? Et autre question aux responsables syndicalistes, 01 45 24 7000 et l'appli l'appli France Inter, rubrique Réagir. Le comble du brancher en 2021 en France serait-il de prendre le train, plus vert que l'avion ou les camions, indispensable à la desserte de régions isolées. La Palombe Bleue, par exemple, était très attendue ce matin en gare de Lourdes. C'est le surnom du train de nuit qui reprend entre Paris et la ville des Hautes-Pyrénées. Le gouvernement envisage de lancer des chantiers pour ouvrir ou rouvrir une dizaine de lignes de nuit d'ici à 2030. Des petites lignes en journée aussi, comme la liaison Épinal-Saint-Dié inaugurée ce week-end. Et puis le TGV voit arriver la concurrence. Depuis ce matin, pour la première fois sur une ligne nationale, on peut acheter un billet à une autre compagnie que la SNCF. La ligne est symbolique, c'est Paris-Lyon. Et c'est l'italien Trenitalia qui s'invite sur le marché français ouvert à la concurrence. On peut réserver à partir d'aujourd'hui pour des voyages à partir de samedi. Bonjour Kathleen Comte.
Bonjour.
Alors hypothèse Kathleen, je veux aller à Lyon samedi. Prix, service, comparons les offres SNCF et Trenitalia. Commençons par les prix.
Alors si vous souhaitez prendre le train pour Lyon ce samedi, Bruno, ne tardez pas, ce sera le début des vacances scolaires. Les trains sont pris d'assaut. Côté SNCF, ils sont déjà presque tous complets et coûtent minimum 65 euros. Côté Trenitalia, en revanche, pour ce samedi, les prix démarrent à 23 euros en confort standard, équivalent de la seconde classe, 39 euros en business confort, équivalent de la première. Et puis, si vous avez des enfants, Bruno, sachez que les billets sont gratuits pour les moins de 4 ans et à moins 50% pour les 4-14 ans.
Voyons la fréquence maintenant.
Il y a plus d'offres du côté de la SNCF. La compagnie française propose en temps normal 26 trajets par jour, là où pour l'instant sa concurrente italienne n'en propose que deux, un le matin et un l'après-midi. Une offre qui devrait être complétée dans les prochains mois avec trois allers-retours quotidiens complémentaires.
Et qu'en est-il des services à bord ?
Alors que la SNCF est souvent décriée pour ses retards et ses trains vieillissants, la compagnie italienne met en avant une flotte récente, rapide et respectueuse de l'environnement. La Freccia Rossa, la Flèche Rouge, c'est le nom de ce train en italien, propose aussi du wifi gratuit, des menus préparé par un chef étoilé et la possibilité de choisir en première comme en seconde classe entre une voiture silencio pour lire, dormir ou travailler ou une voiture allegro plus conviviale et adaptée aux familles.
Qui prendra le train à Noël ? Les réservations marchent bien, on croit à la SNCF, alors que les vacances commencent en fin de semaine. La société annonçait vendredi une hausse des réservations de 30% par rapport à 2019. Le train encore dans le sud-ouest. Cette semaine, le budget du projet de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse et Dax aussi sera-t-il bouclé ? Les collectivités locales se prononcent. La région Nouvelle-Aquitaine d'abord, aujourd'hui à Bordeaux. Trois départements de cette région rechignent à financer le projet. Projet qui prolonge la ligne Paris-Bordeaux, une branche vers Toulouse qui serait à 3 heures de Paris, une autre vers Dax. Le variant Omicron se propage à un taux phénoménal, jamais vu auparavant. Ce sont les propos du ministre britannique de la Santé ce matin. Hier, Boris Johnson parlait de raz-de-marée. Ce matin, le premier ministre britannique a annoncé un premier mort dans son pays, premier mort du Covid version Omicron. Il y a plus de 3000 cas d'Omicron au Royaume-Uni et encore sans doute davantage. Pour le gouvernement, il devrait être le variant dominant devant Delta d'ici quelques jours. La principale réponse est de proposer une dose de rappel à tous les adultes un mois plus tôt que prévu. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Et le variant Omicron, où en est-il en France ? Les derniers chiffres avec vous Hélène.
Oui, pour le moment le compteur de Santé publique France est en panne. Les derniers chiffres datent donc de jeudi dernier. Nous en étions alors à 53 cas, mais selon nos informations, on serait plutôt autour d'une petite centaine aujourd'hui. Là, on parle des cas séquencés. Mais Omicron pourrait être plus présent selon certains épidémiologistes qui l'estiment plutôt à plusieurs centaines de cas. Pour le moment, le variant Delta est lui toujours majoritaire en France. Il représente plus de 97% des prélèvements positifs.
Alors, est-ce qu'Omicron va devenir bientôt dominant avec ce qu'on sait de ses caractéristiques et puis les précédentes arrivées de variants aussi ? Vous nous donnez quelques éléments de réponse.
Selon les données publiées par les autorités sanitaires anglaises, les cas Omicron doubleraient outre-Manche tous les 2 jours et demi. Si on compare avec la souche de Wuhan, c'était tous les 6 ou 7 jours. Une des rares choses dont on est sûr avec ce variant, c'est qu'il est donc plus contagieux que Delta et ce pour plusieurs raisons. C'est ce qu'expliquait ce matin Pascal Crépé à nos confrères de France Info. Il est enseignant-chercheur en épidémiologie à l'École des hautes études de santé publique de Rennes.
Il est à la fois plus transmissible que le variant Delta, qui était déjà très transmissible. Et en plus de ça, les mutations qu'il contient lui permettent d'échapper, au moins en partie, à la réponse immunitaire qui a été induite soit par une infection préalable, soit par la vaccination. Malheureusement, il est amené à remplacer le variant Delta dans les prochaines semaines.
Alors, est-ce que ce sera dans 2, 3, 4 semaines ou plus ? Très difficile à prévoir. Le risque rythme pourrait être moins rapide qu'en Grande-Bretagne, et ce pour plusieurs raisons. La France a des restrictions comme le port du masque dans les lieux publics et le pass sanitaire que Londres vient seulement de mettre en place. Même chose pour la dose de rappel que la France a généralisée aux plus de 18 ans il y a déjà 2 semaines. Or, selon une étude préliminaire, cette 3e dose permettrait une efficacité de 70 à 75% contre Omicron.
En France, vous le disiez, cette 5e vague, elle est pour l'instant sous le signe de Delta. Le pic se profile selon le ministre de la Santé. La question clé, c'est celle du pic hospitalier, avec quelques jours de décalage toujours. Le risque est qu'il intervienne entre Noël et le jour de l'an. Les hospitalisations sont toujours en hausse. En France, 14 050 en tout hier, 2 602 personnes en soins critiques à cause du Covid. Autre chiffre, 14 500 000 personnes ont déjà reçu une dose de rappel. Plus de 52 millions au moins une dose tout court. Mais il y a des différences entre territoires. 40% de non-vaccinés dans les quartiers nord de Marseille, par exemple. Des bénévoles sillonnent les rues et les immeubles pour convaincre les réticents ou ceux qui manquent d'informations. C'est l'association Santé et Environnement pour tous. 2 à 300 personnes sont vaccinées chaque semaine grâce à leur persuasion et leurs explications. Reportage Laurent Grollet.
Et quand je rencontre Karima, elle est déjà en grande discussion avec Zaya qui hésite à se faire vacciner pour la 3e fois.
Je me demandais quelles étaient les conséquences du 3e vaccin.
Alors c'est pas une 3e dose, c'est un rappel. En fait, c'est juste pour rebooster un petit peu vos anticorps. Oui.
Il faut convaincre, informer, balayer les idées reçues dans des quartiers où l'information circule moins facilement, explique Sana, bénévole à l'association C.
Là, on est dans les quartiers populaires. Pas tout le monde est bien informé concernant ce fameux vaccin. Concrètement, les quartiers nord sont lésés. C'est plutôt les gens qui s'informent entre eux.
Donc là, vous êtes utile.
Énormément.
Convaincre notamment les jeunes que se faire vacciner, c'est nécessaire.
Tu sais pas pourquoi. Est-ce que tes collègues, ils ont fait le vaccin?
Et t'as pas envie d'être le premier.
Pas sûr que cet adolescent soit encore convaincu.
Je connais des gens qui sont vaccinés, après ils ont eu le Covid. C'est pour ça que j'aime pas, ça va rien faire.
Donc vous avez 0 dose.
Ouais.
Et puis une petite victoire pour Karima lorsqu'elle parvient à convaincre cette femme de se faire injecter sa première dose.
Moi, je sais pas, ma mère s'est fait vacciner, toute ma famille s'est fait vacciner, moi non.
Lundi, on va te venir chercher, tu travailles?
Non, je travaille pas.
Voilà pour ce reportage de Laurent Grollet, France Bleu, Provence à Marseille. Et c'est à Marseille qu'Emmanuel Macron, vous en souvenez peut-être, avait effectué sa rentrée à la fin de l'été dans cette ville, marquée par les règlements de compte cet été encore et par l'état de délabrement de certaines de ses écoles. Le président de la République avait promis 1,5 milliard de financements nouveaux. 3 mois après, Jean Castex, le Premier ministre, vient faire un point d'étape. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Ce plan Marseille, Maxence, Marseille en grand, n'est pas encore concret. Disons que la mécanique se met en place.
Oui, c'est ça, exactement. Emmanuel Macron a lui promis de revenir à Marseille en février, à quelques semaines de la présidentielle. Il devra alors présenter des résultats tangibles. Et c'est pourquoi son Premier ministre vient remettre de la pression dans tous les tuyaux, comme le dit son cabinet, aider au dialogue, car cela reste très tendu entre la ville et la métropole, entre le maire socialiste Benoît Payan et la présidente de droite Martine Vassal. Aucun des deux, d'ailleurs, n'est satisfait de la réforme de la gouvernance qui vient d'être adoptée à l'Assemblée. La ville voulait davantage de compétences, mais un équilibre a été trouvé. Les conseils de territoire supprimés, se félicite le gouvernement. Pour ce qui est des écoles, 174 établissements identifiés. Les 250 millions apparaissent bien dans le budget 2022. Reste à créer l'outil de pilotage entre la ville et l'État avant d'ouvrir les appels d'offres. Côté sécurité, les renforts arrivent, comme promis. Le dossier des transports avance, lui, moins vite, car ville et métropole doivent s'entendre sur le calendrier des chantiers. Priorité au quartier nord, a demandé Emmanuel Macron. Le milliard promis est assorti de contrepartie. L'heure est donc encore, oui, à la mécanique en coulisses, alors que dans les rues, les déchets s'amoncellent encore. Nouvelle grève qui vient rappeler à Jean Castex l'ampleur des défis.
Jean Castex qui n'oublie pas le Covid. Il passera cet après-midi à l'hôpital de la Timone visiter un centre de vaccination. Le Premier ministre à Marseille donc, le Président de la République à Budapest. Depuis le départ d'Angela Merkel, Viktor Orban est le dirigeant européen au pouvoir depuis le plus longtemps parmi les 27. Le Premier ministre hongrois est aussi le chef de file des nationalistes. C'est cet homme qu'Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui. Un adversaire politique, mais un partenaire européen, fait valoir le président. Il y a des terrains d'entente entre eux sur le nucléaire ou la souveraineté de l'Europe. La Hongrie, c'est le dernier pays européen que le président français n'avait pas encore visité. Plus on se rapprochera de l'élection présidentielle, plus chaque déplacement d'Emmanuel Macron aura une résonance dans le débat français. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Le chef de l'État qui se présente en France et en Europe comme celui qui fait barrage aux populistes commence sa visite sur la tombe d'une opposante à Viktor Orban.
Avant même de rejoindre le palais du gouvernement, Emmanuel Macron a tenu à faire ce détour par le cimetière juif de Kozma Outsa. C'est là que repose la philosophe Agnès Seller. Elle était l'une des plus ferventes critiques du régime national conservateur jusqu'à sa disparition il y a 2 ans. La mise en scène est savamment calculée. Vous visitez un pays dirigé par Marine Le Pen ou par Éric Zemmour, l'avertit un opposant dans une lettre ouverte. Le président a bien compris le parti qu'il avait attiré de cette opposition. Il apportera d'ailleurs cet après-midi son soutien au candidat anti-Orban pour les législatives d'avril prochain. Mais entre-temps, il vient aussi serrer la main du Premier ministre hongrois, adversaire politique mais partenaire européen, comme le décrit Emmanuel Macron. Futur président de l'Union européenne, il vient chercher un soutien sur la souveraineté numérique, les investissements ou l'Europe de la défense. Futur candidat à la présidentielle, il affiche ses désaccords sur la corruption, les droits des LGBT ou l'indépendance de la justice. Un nouveau grand écart, un pied sur la scène continentale, l'autre sur la scène nationale.
Simon Le Baron avec Arthur Gerbault pour France Inter, tout comme l'autre envoyé spécial de France Inter, Louise Baudet. Bonjour Louise.
Bonjour Bruno.
Autre geste pour répondre à ceux qui lui reprochent à Emmanuel Macron d'aller voir un homme d'extrême droite. Avant de voir Viktor Orban, il rencontre plusieurs membres de l'opposition hongroise, des oppositions devrait-on dire. Cela dit, elles partent unies pour les législatives d'avril prochain. Leur objectif est d'empêcher Viktor Orban de rempiler pour un 5e mandat.
Oui, un front commun de 6 partis différents, allant du Jobbik d'extrême droite jusqu'à la gauche. C'est l'ensemble de la classe politique hongroise qui fait front contre le Fidesz et son leader. Résultat d'une primaire qui a mobilisé début octobre plus de 800 000 votants, soit 1/10 des électeurs hongrois. Primaire remportée par un outsider, Péter Márkizay, conservateur âgé de 49 ans, père de 7 enfants, catholique, pratiquant. Cet ancien électeur du Fidesz est beaucoup plus dangereux pour Viktor Orban que la libérale de centre-gauche Klára Dobrev. Bref, pourtant arrivée en tête au premier tour de la primaire, l'eurodéputée est également l'épouse d'un ancien Premier ministre et à ce titre plus facilement attaquable. Alors l'objectif de Péter Márkizay et de l'opposition unie est simple, dégager Viktor Orban pour, je cite, « libérer le pays de la corruption et rétablir la démocratie avec une nouvelle constitution ». La partie sera très difficile, Viktor Orban tient tous les rouages médiatiques et économiques du pays. Péter Márkizay a d'ailleurs prévenu, les élections ne seront d'après lui ni des démocratique, ni libre, ni équitable.
Et après la Hongrie, de retour à Paris, Emmanuel Macron sera dimanche soir à la télévision, interview auprès de TF1 et LCI pour dresser un bilan de son quinquennat, moins d'une semaine après avoir tenu une conférence de presse. Aux États-Unis, les sauveteurs vont-ils encore trouver des survivants sous les décombres des bâtiments emportés par les quelques 30 tempêtes qui ont déferlé sur le centre-est, Mississippi, Missouri, Illinois, Tennessee, Arkansas? Et surtout Kentucky, 94 morts en tout, 80 pour le seul état du Kentucky. La ville martyre, c'est Mayfield. Un peu plus de 48 heures après le passage du vent, les secours s'affairent toujours et les volontaires aident au déblaiement des débris. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Sébastien Paour.
C'est Curtis, le mari de sa fille, qui a embarqué Tony, comme en 2005 après le cyclone Katrina en Louisiane. Mon gendre a publié un message la nuit dernière disant qu'il venait ici aujourd'hui et j'ai embarqué. Il conduit une pelleteuse en ce moment. Nous essayons de dégager le chemin vers cette maison. Un arbre dont le tronc fait presque 3 mètres de diamètre bloque l'accès aux murs de briques éventrés et sans toit. Ce qui reste des maisons, parce qu'évidemment elles ne sont plus du tout habitables. Tronçonneuse, hache, Tony et Curtis retirent branches, morceaux de métal et fils électriques. On va essayer de faire un passage. Certains de ces gens pourront retourner chez eux, récupérer ce qu'ils pourront. Des volontaires équipés venus de partout à la ronde, il y en a des dizaines en ville. Vous regardez la catastrophe autour de vous. Il y a besoin d'aide partout. Donc on choisit juste un endroit et on commence à faire ce qu'on peut. C'est tout ce qu'on a à faire. Tony et son gendre ont prévu de rester campés dans leur pick-up 2 ou 3 jours. Mayfield, Kentucky, Sébastien Paour, France Inter.
Les émissions de gaz à effet de serre générées par les grands groupes de l'industrie agroalimentaire continuent d'augmenter ces émissions. C'est l'affirmation d'un cercle de réflexion américain, l'Institute for Agriculture and Trade Policy. Ces militants ont examiné l'activité de 35 entreprises européennes dans les secteurs de la viande et du lait, Danone et Lactalis en France. Conclusion Sandy Dauphin, les émissions augmentent.
Oui, selon cette enquête, les 35 plus grandes entreprises de viande et de lait en Europe sont responsables de 7% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, essentiellement à cause du bétail dont le système digestif émet beaucoup de méthane. D'après cette analyse de l'Institut de politique agricole et commerciale, basée, vous le disiez, aux États-Unis, les émissions de 7 géants continuent d'augmenter, plus 15% pour Danone, plus 30% pour Lactalis entre 2015 et 2017. La multinationale de Laval explique que cette croissance est due à l'expansion du groupe. Lactalis a en effet réalisé plusieurs acquisitions ces dernières années. Le rapport accuse l'industrie de la viande et du lait d'inaction. Seuls 10 des 20 plus grandes multinationales étudiées ont des objectifs climatiques. Et d'après cette enquête, il y a beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire des promesses, peu de résultats. Ainsi, le mode de calcul pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre du secteur est jugé trompeur. Les entreprises utilisent souvent le concept d'intensité carbone, c'est-à-dire qu'elles calculent les émissions par litre de lait ou kilo de viande. Or, d'après ce rapport, cette approche ne reflète pas la réalité d'une industrie qui produit de plus en plus, avec de plus en plus de vaches.
Venons-en au football. À présent, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce midi. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Bruno.
Le Paris Saint-Germain jouera contre un grand d'Europe. On va garder le suspense. Commençons avec Lille, Cédric, qui rencontrera Chelsea.
Oui, je peux quand même dire que le tirage apparaît bien plus difficile pour le LOSC que pour le Paris Saint-Germain, alors que les Lillois ont pourtant terminé premier de leur groupe en phase de poule. Ils étaient également tête de série. Chelsea, c'est le tenant du titre de cette Ligue des Champions, vainqueur la saison passée contre Manchester City. Les Blues, qui ont également remporté la Super Coupe de l'UEFA, ils sont actuellement 3e de Première Ligue à 2 points du leader Manchester City. Chelsea qui est entraîné par l'ancien coach du Paris Saint-Germain, l'Allemand Thomas Tuchel.
Et vous dites que le Paris Saint-Germain, de son côté, ne s'en sort pas si mal?
Bah oui, parce que les Parisiens, qui étaient 2e de leur groupe, ont évité le Bayern Munich, ils ont évité le Real Madrid, ils ont évité Liverpool et ils ont hérité de Manchester United. Alors effectivement, c'est le palmarès le plus fourni du football anglais, mais quand on regarde les statistiques cette saison, les Red Devils sont en difficulté en Première Ligue, ils sont 5e du classement seulement, ils sont à 11 points de leur rival Manchester City. Il y a 3 internationaux français, on le rappelle, dans cet effectif de Manchester United, Varane, Pogba, Anthony Martial et puis il y a bien sûr la star Cristiano Ronaldo, 36 ans, qui est revenu en début de saison à Manchester United, le Portugais qui vient de passer la barre des 800 buts en carrière. Et Bruno, on salive déjà l'idée des retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et le septuple ballon d'or, le Parisien Lionel Messi.
Et ces huitièmes de finale, ce sera entre la mi-février et la mi-mars. Et puis en Formule 1, Mercedes a jusqu'à jeudi pour faire appel du rejet de sa réclamation après le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi. Max Verstappen, écurie Red Bull, l'a emporté dans le dernier tour face à la star de Mercedes, Lewis Hamilton, après que le directeur de course a autorisé dans le dernier tour la reprise du Grand Prix qui était au ralenti jusque-là derrière la voiture de sécurité. L'issue a enchanté les commentateurs mais ouvert voie à des contestations. C'est un monument de bronze et de science qui n'a pas bougé depuis 275 ans. Ce qu'on appelle la pendule astronomique de Louis XV doit être restaurée, cette œuvre de Claude Siméon Passement, qui est aujourd'hui le château de Versailles, pour être soigné au laboratoire des musées de France, qui est abrité au Louvre. Hélène Delalex est conservatrice du patrimoine au musée national du château de Versailles.
Cette pendule est souvent réputée magique, on disait même à l'époque miracle de science. Il n'empêche que même si c'est une mécanique de très haute précision, cela reste une mécanique et il était absolument nécessaire à restaurer. La graisse accumulée avec la poussière faisait une sorte de poudre abrasive qui petit à petit corrodait le mécanisme et aujourd'hui, eh bien, de très nombreuses fonctions ne marchaient plus. Et puis, ce qui est très intéressant dans ces très grandes opérations de restauration, donc sur plus d'un an et demi, c'est que c'est une occasion absolument unique de faire progresser la connaissance sur cette œuvre, puisque on va l'étudier avec évidemment les meilleurs spécialistes. Là, notamment juste tout à l'heure, en démontant une partie de bronze, je discutais avec Emmanuel Pell, le restaurateur, et on s'est aperçu que l'artisan était droitier, parce que on voyait des traces qui étaient invisibles à l'œil nu. Donc on voit que petit à petit, on fait des découvertes tout à fait passionnantes.
Propos recueillis par Béatrice Duguay. Dans un instant, le temps de ce jour, puis l'invité du 13-14, Yves Verrier pour Force Ouvrière.
Les éditions Radio France présentent Public Imaginaire.
un livre de Nora Hamzaoui.
Je suis devenue une folle avec le shopping en ligne, folle. Toute la journée, je remplis et je vide des paniers comme ça toute la journée.
Privé de scène, l'artiste nous fait part des émotions et des névroses qu'il la traverse au quotidien et dans sa vie de couple.
Dès qu'il ose dire qu'il a un peu trop de boulot, je suis là, tu préférerais passer la serpillière peut-être ? Alors que je l'ai jamais passé la serpillière.
Un témoignage drôle, lucide et cinglant. Public imaginaire, dans les coulisses de ma tête, de Nora Hamzaoui. Une coédition France Inter.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras ?
Bah tu regardes s'il est du Sud-Ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi ?
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le temps de ce jour.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
L'après-midi est ensoleillé au sud, il est gris au nord.
Oui, deux salles, deux ambiances et puis aux opposés. Hein, sur les régions méditerranéennes et Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'aux plages de la Charente-Maritime et aux côtes de l'Aquitaine. Le ciel est presque tout bleu, le soleil brille généreusement. Alors dans la vallée de la Garonne et le Lyonnais, ainsi que plus localement en Gironde et sur les Landes, il faut un peu de patience et attendre la dissipation des grisailles pour retrouver ce temps ensoleillé. Et puis sur les régions de la moitié nord, les nuages bas vont assez peu évoluer, le ciel restera souvent gris. Alors l'Alsace va tout de même passer un après-midi sous le soleil. Et puis si vous montez en hauteur sur le relief des Vosges, du Jura, du Morvan, mais aussi vers le plateau de Langres, vous passerez au-dessus de cette couche nuageuse et retrouverez aussi du soleil. Les températures sont un peu au-dessus des normales. La douceur est quand même plus marquée près des Pyrénées, avec par exemple 18 degrés pour Pau cet après-midi et 19 degrés au plateau de l'Admezan. On attend 16 degrés à Antibes et Bastia, 10 degrés pour Paris, Rennes, Bourges, Rouen ou encore Amiens, 9 degrés à Arras, Charleville-Mézières et Nancy, et 5 degrés seulement à Dijon. Et puis restez prudent, dans le sud-ouest, les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont encore placés en vigilance orange par les services de Vigicru. Les bords de la Dour, notamment le secteur de Dax, sont particulièrement concernés.
Sébastien Léas, Météo France, merci beaucoup. Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
La question économique de la présidentielle sera-t-elle celle des salaires ? Avec une croissance à plus de 6% cette année, croissance économique, une hausse des prix à 2,6, et alors que la moitié des entreprises, selon la Banque de France, peinent à recruter, les salariés ont de solides arguments à faire valoir. D'ailleurs, des négociations sont en cours dans une série de branches professionnelles. Dans la fonction publique, une partie des syndicats a claqué la porte d'une troisième séance de discussion depuis le début de l'année, la semaine dernière. Le gouvernement refuse d'augmenter le point d'indice. Pas de coup de pouce non plus pour le SMIC, au-delà de la revalorisation liée à l'évolution des prix, en tout cas pour l'instant. Alors, est-ce que vous attendez à être augmenté dans les semaines à venir ? Est-ce forcément du salaire ? Ou est-ce que cela peut passer par d'autres dispositifs comme l'intéressement ou la participation ? Je vous attends au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos questions et témoignages. Notre invité jusqu'à 13h45 est le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Parlons d'abord pouvoir d'achat, encore plus directement avant de parler salaire. Distribué à partir d'aujourd'hui, le chèque énergie de 100 euros pour 6 millions de Français. L'indemnité inflation de 100 euros également pour 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Le bouclier tarifaire est prolongé tout au long de l'année 2022. Sur la hausse du prix de l'énergie, est-ce que le gouvernement peut faire encore plus ou est-ce que là il y a une réponse, disons, substantielle de votre point de vue ?
Bien, je pense que ça ne suffira pas pour passer l'hiver parce qu'il ne faut pas oublier que l'augmentation du gaz, de l'électricité a eu lieu à la fin de l'été, début de l'automne, que le bouclier tarifaire, il avait pour vocation de bloquer la hausse dans les mois qui viennent, mais l'impact de la hausse précédente va se produire quand il va falloir se chauffer à partir de maintenant, enfin toute la période d'hiver qui vient.
Pour l'instant, le bouclier est prolongé toute l'année 2022.
Oui, mais la hausse qui a eu lieu, elle s'applique sur les tarifs aujourd'hui. Donc ceux qui vont se chauffer, qui vont devoir racheter du fioul, du gaz ou de l'électricité, ça va leur coûter plus cher parce que il y a la hausse des carburants également. Donc voilà, il y a un vrai souci de pouvoir d'achat aujourd'hui. Ça n'est pas un hasard si on mesure une inflation à 2,8 au mois de novembre et on est sur une pente qui continue à la hausse. Et c'est pas simplement une situation franco-française. Donc je pense que sur la question des salaires, il y a urgence à ce qu'on en réponde et que on dépasse. Bien sûr, il y a l'indemnité inflation pour 38 millions de Français. Ça montre au passage que 38 millions de Français perçoivent moins de 2000 euros chaque mois. Vous savez que le poids des dépenses contraintes, il affecte particulièrement les bas salaires ou les bas revenus en tout
cas. Salaire médian en France, 1800 net.
Voilà, on est à 1800 et quelques net. Et ça ne permet pas, quand vous avez payé le logement, le chauffage, l'électricité pour le reste, le carburant si vous allez travailler, bah évidemment, il ne reste pas grand-chose à la fin du mois quand il reste quelque chose.
On vient au salaire dans une seconde. Juste, vous nous dites ce dispositif ne suffira pas pour passer l'hiver. Vous appelez à un nouveau dispositif, une nouvelle prime, une nouvelle quelque chose de plus ?
Ce que je pense et ce que nous soutenons, nous, il y a, vous le disiez, des négociations de salaire dans certaines branches. Il y a des conflits dans un certain nombre de secteurs. Aujourd'hui, c'est la sécurité sociale, par exemple,
oui, et les
qui, à l'image de la fonction publique, revendique une augmentation du point d'indice. Il y a le secteur des transports, toute cette semaine, à l'appel de FO, qui est en bagarre sur la question des négociations qui doivent reprendre tout début janvier, sur les salaires, justement. Il y a un certain nombre de secteurs où ça bloque. Il y a, on a réussi à Carrefour, après un conflit qui a démarré le 5 octobre dernier, à obtenir une négociation, un accord. Par contre, il y a un mouvement qui se prépare 17 décembre à Auchan. Lidl s'est bloqué. On a le secteur des laboratoires de biologie médicale où ça coince. Il y a le secteur de la coiffure où ça coince.
Coiffure, Sanofi, grosse difficulté de recrutement.
Mais qui tourne beaucoup avec les dispositifs publics sur l'apprentissage.
Donc là, vous nous avez cité grande distribution, secteur de la santé, vous apprêtiez à parler de Sanofi, secteur de la coiffure, transport, voilà là où ça coince.
Oui, exactement.
Y a-t-il des endroits où les salaires augmentent ? Quand Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, dit beaucoup d'entreprises augmenteront les salaires, est-ce que c'est le cas, au moins au plan individuel, ou est-ce qu'il y a des est-ce que vous avez écho d'augmentation de salaire assez substantielle ?
Il y a certaines branches où on arrive à trouver des accords qui sont en général l'apurement de l'inflation des 12 derniers mois, avec des clauses de revoyure, avec des clauses de revoyure en tout début d'année.
Quelle branche ?
Il y en a plusieurs dans la métallurgie, par exemple, les services de l'automobile, recyclage, l'horlogerie, des secteurs de cette nature.
On est sur des augmentations d'un peu plus entre 2 et 3% qui en fait collent à l'inflation.
Oui, c'est ça, on rattrape de l'inflation à 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, avec, je vous dis, une clause de revoyure parce qu'on sait que ça va se reposer en 2022, de toute façon, la question du pouvoir d'achat. Et puis, il y a des entreprises où il y a fallu parfois des conflits, on a parlé de Labeyrie, on a parlé de Leroy Merlin, par exemple, où au terme de conflit, on a trouvé un accord dans la sûreté aéroportuaire également, où il y avait une prime qui était remise en cause par la branche patronale, où on a réussi à obtenir gain de cause. Donc il y a des cas de figure différents, mais il y a une grosse pression sur les questions des salaires. Et vous parliez de ces dispositifs, par exemple le chèque énergie démontre aussi qu'il y a ces 6 millions de bénéficiaires. Le chèque énergie, il est distribué à des personnes qui ont un revenu de 60% du revenu médian, c'est-à-dire moins que ce qu'on qualifie de seuil de pauvreté monétaire, qui est à 80%. Ça veut dire qu'il y a 6 millions de personnes dans ce pays qui vivent dans une pauvreté quand même particulièrement sensible. Donc ça n'est pas satisfaisant, bien évidemment. Et encore une fois, il y a une vraie difficulté sur les salaires. Et moi, j'en appelle, un, à ce que le gouvernement qui se voulait incitatif...
Qui pousse, pour qu'il y ait des hausses de salaire.
Oui, qui dit aux entreprises de jouer le jeu. On lui a reproché de s'en être tenu à l'augmentation minimale légale en octobre de 2,2% du SMIC qui a rattrapé les 12 mois d'inflation passée. Là, on est à 0,6 de plus d'inflation, d'ores et déjà.
Vous voulez un coup de pouce en janvier ?
J'espère qu'il va y avoir un vrai coup de pouce, parce que quand le gouvernement incite les branches où les grilles de salaire ont été rattrapées par l'augmentation du SMIC, il fait la démonstration qu'augmenter le SMIC est un facteur qui pousse à ce qu'on renégocie l'ensemble des grilles de salaire.
C'est la question des tassements des salaires.
Exactement.
Effectivement, quand le SMIC augmente, les salaires les plus bas s'approchent du SMIC, donc on est obligé de les relever pour éviter qu'ils tombent au niveau du SMIC.
Exactement. Et donc, moi, j'en appelle à un vrai coup de pouce sensible sur le SMIC, et surtout, parallèlement à ce qu'on en revienne à une vraie prise en compte de ce que disent les syndicats, de ce que disent éventuellement les organisations patronales, mais qu'on a un vrai débat public sur la question du niveau du SMIC, et non pas que le gouvernement se replie derrière l'avis de ce dit groupe d'experts qui, depuis 12 ans, nous dit la même chose.
Et qui recommande.
Il ne faut pas augmenter le SMIC plus que ce que la loi y oblige. Il trouve même que c'est trop.
Parce
donc
que
on cesse avec ça.
Les marges des entreprises sont insuffisantes et que ça risque de créer effectivement une trappe à salaire pour les plus bas salaires. Ce sont les arguments avancés par cette commission.
Sanofi fait 340% d'augmentation de profit et propose des miettes, nous disent nos syndicats, dans la négociation de salaire. Donc, on voit les entreprises du CAC 40 qui versent 50, enfin, en dividendes plus qu'elles n'ont réalisé de profit. 50 et quelques milliards de dividendes versés en dividendes par les entreprises du CAC 40, ce qui est au niveau d'avant la crise sanitaire à peu près. Donc, il y a bien une fuite de richesses produites par l'activité économique dans la spéculation boursière. Eh bien, augmenter les salaires, c'est autant de moins qui s'évaporent dans la spéculation, dans les marchés financiers.
Le coup de pouce au SMIC, vous y croyez ? Elisabeth Borne a laissé la porte ouverte, elle n'a pas complètement bloqué cette possibilité. Est-ce que vous y croyez ? Quels sont les échos que vous pouvez avoir ?
Vous savez,
les discussions ?
Je suis un syndicat, je ne crois à rien, je me bats pour faire en sorte que ce qui concerne l'intérêt des salariés soit effectivement pris en compte. Je me suis adressé formellement au Premier ministre, à la ministre du Travail. Je l'ai rencontré il y a de cela quelques jours en tête à tête et j'ai insisté sur cette question du SMIC, sur cette question du pouvoir d'achat, sur la nécessité aussi de pousser au maximum les branches qui sont rétives à l'ouverture de négociations sur l'ensemble des grilles pour relever les grilles de salaire, parce que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que tous les dispositifs d'aide publique aux entreprises, c'est plus de 140 milliards d'euros chaque année, avant même la crise sanitaire, créent des systèmes de trappe à bas salaire, parce que ce sont des exonérations de cotisations sociales ou ce sont des dispositifs qui se substituent à des augmentations de salaire, qui exonèrent d'une certaine manière. Quand on donne de la prime d'activité pour ceux qui sont au SMIC, 100 euros, évidemment, c'est toujours bon à prendre. L'indemnité inflation pour
mais
ceux qui vont la percevoir, c'est
salaires.
Toujours bon à prendre, mais ça exonère les entreprises de répondre à la question de l'augmentation des salaires. Le salaire, c'est la rémunération du travail. Il doit être justement rémunéré. On a aujourd'hui trop de salariés au SMIC par rapport à ce qu'était la situation dans les années 70.
SMIC qui est à 1258 euros net aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça qu'il faut remettre à plat tous ces dispositifs pour qu'on redonne l'espace de la négociation collective sincère, réelle, qui permette d'augmenter les salaires.
Ce que vous nous dites, c'est qu'on ne dialogue pas assez avec les syndicats depuis le début du quinquennat aussi.
Oui, ça c'est une réalité, mais on a trop mis de dispositifs qui s'inscrivent dans la logique le salaire serait l'ennemi de l'emploi. Si on augmente les salaires, et en particulier le SMIC, c'est ce que nous dit le groupe d'experts, on va détruire de l'emploi, ce qui est faux, puisque dans le même temps, le gouvernement nous dit compter sur la consommation des ménages pour relancer l'activité économique.
Vous nous dites
du
salaire plutôt que des primes.
Oui, il faut du salaire. C'est pour ça que vous parliez intéressement participation. Le
risque, vous dites salaire,
c'est que ça se substitue aux augmentations de salaire.
Avant d'aller au standard, Yves Verrier, un mot de l'hôtellerie-restauration. Vous parliez de la coiffure.
Ça coince également. Oui.
Alors, ça coince. Plus 10% a proposé le patronat, pour le dire vite, lors des dernières négociations. Ce serait quoi ? Ça n'a pas abouti. Ce serait quoi une hausse des salaires convenable, selon vous, dans l'hôtellerie-restauration?
On n'a pas réussi à trouver les 10% en question, parce que le problème, c'est que le patronat...
Mais le chiffre convenable pour vous, ce serait quoi ?
Importante sur les hautes grilles. Or, la grande masse des salariés de l'hôtellerie, café, restaurant, elle est en bas de la grille. Et pour cela, on est très loin des 10% proposés par le patronat. Donc, nous, on est dans une négociation qui est à la fois sur l'augmentation des salaires. Nous avions mis en avant la question aussi de la mise en place progressive d'un 13e mois et également une disposition qui permette d'améliorer les conditions de travail, notamment avec le repos le dimanche, qu'on inscrive dans cette négociation aussi cette dimension.
Mais pardon Yves Verrier, quand on ne connaît pas le détail des négociations, 10% ça semble une proposition substantielle. Pourquoi ça ne l'est pas et quel chiffre serait une proposition intéressante ?
Parce que nous ne trouvons pas dans nos calculs ces 10%, je vous dis. Ils mettent très fort en haut des grilles, mais ça concerne très peu de monde, et bien peu et pas assez sur le bas des grilles. C'est ça la différence.
Nous allons au standard. Question d'Isabelle. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, vous voulez nous parler de la fonction publique.
Oui, tout à fait. Je suis professeure de mathématiques, responsable de spécialiste de la formation des professeurs. Et je m'interroge, comme tous mes collègues quasiment, sur le fait que les salaires les traitements de la fonction publique ont dégringolé, ont perdu quasiment 20% depuis une quinzaine d'années, et qu'en plus on a du mal à recruter maintenant parce que justement le métier n'attire plus suffisamment, d'autant qu'il est difficile et que les décisions de Jean-Michel Blanquer sur les options par exemple au lycée n'ont pas rendu les choses plus simples. Donc je voulais demander à M. Verrier ce que vous envisagez au niveau des syndicats pour demander une réévaluation honnête de la fonction publique.
Alors le point d'indice, la dernière fois qu'il a augmenté, c'était à la fin du quinquennat Hollande, plus 0,6%, plus 0,6% aussi en 2016, et la fois précédente, c'était en 2011. Pas d'augmentation du point d'indice, a dit la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, la semaine dernière. Une partie des syndicats ont claqué la porte. Que dit FO, Yves Verrier ?
Le problème, c'est ce que vient de dire madame, le gel du point d'indice depuis autant d'années, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes en catégorie A, c'est-à-dire les cadres de la fonction publique, vous démarrez à 12% au-dessus du SMIC seulement. Quand vous êtes en catégorie B, vous démarrez à 3 points au-dessus du SMIC seulement. Quand vous êtes en catégorie C, écoutez bien, vous démarrez à peu près au niveau du SMIC et il vous faut 19 années de carrière pour gravir l'ensemble des échelons de la catégorie C et au terme de ces 19 années de carrière, vous aurez vu votre salaire mensuel augmenter de 150 euros. Comment voulez-vous attirer professeurs, par exemple, les étudiants qui font des études en mathématiques, en sciences, etc.
Donc les négociations vont reprendre l'année prochaine. Vous dites qu'il faut que le point d'indice bouge.
Il faut enfin qu'on cesse de stigmatiser la fonction publique et les fonctionnaires avec toujours ce leitmotiv que ce serait strictement et seulement une dépense publique qu'il faudrait économiser. Il faut replacer, et y compris reconsidérer l'importance de la fonction publique, du rôle des fonctionnaires, et la reconnaître à la fois en termes de rémunération, de salaire et de carrière. C'est comme ça qu'on attirera les enseignants, par exemple, plutôt qu'ils n'aillent dans le secteur privé, parce que les salaires, alors que c'est le métier le plus noble, ne sont pas au niveau.
Merci Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, d'être venu dans les studios de France Inter. En plus, vous venez de me fournir une transition parfaite avec la suite.
France Inter, le 13-14.
Ah ben oui, parce qu'à suivre dans le vif de l'histoire, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Trop de fonctionnaires, un historien regarde ce slogan.
Émilien Ruiz qui fait l'histoire d'une obsession française.
Le feuilleton immersion dans une école basque cette semaine avec Sonia Princey, et tout de suite c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Ah, pour ceux qui aiment la comédie musicale, une très jolie soirée se profile chez nos cousins de France Musique. 42e rue fait son show, comme tous les ans. Laurent Vallière célèbre la fin d'année par un spectacle en direct du studio 104. Au programme notamment, Comment va la vie ? Une création inédite signée Zabou Breitman et Reinhard Wagner. Mise en scène de Zabou Breitman. Qui est à votre micro ?
Et cette création, c'est une courte comédie musicale bien déjantée dans laquelle on verra un animateur de radio furieusement sexiste interviewer deux auditrices charmantes mais un peu vampires. Ces chanteurs comédiens seront accompagnés par l'Orchestre National de France et Zabou m'a d'ailleurs parlé d'un autre chanteur comédien. Elle est une inconditionnelle de Michel Jonas.
Moi, je suis allée le revoir au Casino de Paris il n'y a pas longtemps. Et ce qui est intéressant chez ce chanteur, c'est sa voix a bougé, c'est amplifié, quoi. C'est comme si la caisse de résonance avait grandi. Et je trouve que son talent, il le connaît et surtout, il le maîtrise. Je sais pas comment dire, il maîtrise son talent. Parfois, la jeunesse ne maîtrise pas son talent. Là, il y va et sa voix correspond à ce qu'il dit. L'émotion des mots correspond à l'émotion de la voix et l'émotion des mélodies.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. Les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs.
Zabou Bretman. Frédéric a donc choisi Les vacances au bord de la mer.
Une chanson parue sur le deuxième album de Michel Jonas, je vous ai coupé. En 1975, Louis-Michel Jonas, il a passé son enfance à Drancy, dans un immeuble HLM, et l'été avec sa famille. Au début des années 50, il lui est arrivé de partir en vacances à la Baule.
On dirait presque un documentaire sur les mômes qui se promènent au bord de la mer et qui regardent les autres s'amuser. On dirait un documentaire. Quand on écoute bien, c'est un doc qui raconte avec une espèce d'élégance du désespoir ce que c'est que en avoir ou pas. C'était le film de Laetitia Masson sur l'argent, qui était vraiment un très beau film. Et bah non, il y a des gens qui n'ont pas. Il y a une sorte de destin, c'est genre bah nous on peut pas quoi. Bah nous c'est pas pour nous. Oh, j'aimerais bien être à leur place, mais c'est pas pourquoi ils ont ça et pas moi. Il n'y a pas ça dans cette chanson. C'est pas misérabiliste, pas une seconde.
Mais vous, ça vous rappelle des souvenirs, ce genre de situation ?
Moi, j'ai connu les deux. C'était bizarre. Petite, j'allais dans les stations balnéaires très huppées. Et puis, quand j'ai eu 7, 8, 9 ans, ça s'est un peu moins bien passé. 10, 11 ans, là, c'était fini. Mais j'étais quelqu'un d'extrêmement optimiste et tout le temps assez contente. Donc, j'avais pas beaucoup de vêtements, j'avais pas beaucoup de trucs. Mais je n'étais pas en colère. C'est assez curieux, ça. Je n'étais pas envieuse. Non, je me disais, comment je pourrais faire pour avoir ça ? Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire des choses. Je n'allais pas juste passer mon temps à regarder les autres avec envie.
Au-delà même d'être une chanson qui a les vertus d'un documentaire, est-ce que ce n'est pas l'une des plus jolies chansons sur l'enfance, tout simplement ?
Oui, parce qu'il y a une forme de simplicité qui n'est pas si facile, sinon tout le monde saurait le faire. Donc cette simplicité, c'est comme la simplicité du trait chez un peintre, elle est bouleversante parce qu'il y a aussi la simplicité de l'enfance dedans.
Alors on regarde les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau.
Michel Jonas, Les vacances au bord de la mer. C'était donc Frédéric, le choix de Zabou Bretman.
Dont on pourra entendre Comment va la vie, courte comédie musicale qu'elle a coécrite avec le compositeur Reinhard Fackner pour l'émission 42e rue Fait son show. C'est ce soir en direct sur France Musique.
À demain.
À demain.
Dans le feuilleton jusqu'à jeudi, nous partons dans des écoles basques. C'est jeudi, ce jeudi, que doit être publié une circulaire autorisant l'enseignement immersif en langue régionale qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel au printemps dernier. L'enseignement immersif, c'est le fait d'enseigner toutes les matières dans une autre langue que le français. 15 000 élèves en France étudient en breton, en basque, en occitan, alsacien ou en corse. Dans ces écoles, l'apprentissage du français ne démarre qu'en CE1, à raison de quelques heures par semaine. À Bayonne, les élèves peuvent suivre un cursus complet de la maternelle au lycée en euskara, c'est-à-dire la langue basque. Et Sonia Princet s'est immergée dans l'une des plus anciennes ikastolas basques. Aujourd'hui, visite de la maternelle.
Donc on se trouve devant Uyana Ikastola, c'est une Ikastola maternelle et élémentaire. Donc on met les masques et on rentre.
Donc vous êtes ?
Pour Gorostiaga, je suis directeur de CHK, la fédération des Ikastola.
Donc Ikastola, ça veut dire école ?
Alors Ikastola, Ikashi, ça veut dire apprendre, et Ola, c'est l'endroit où on crée, en fin de compte. Donc Ikastola, c'est l'endroit où on apprend. Actuellement, 38 établissements et plus de 4 500 élèves.
Donc là, ça va de quel âge à quel âge ?
Donc ça commence à 2 ans et ils finissent en CM2, à 11 ans. Et ils vont après à côté, au collège, et un peu plus loin, le lycée, jusqu'en terminale. Les salles de classe, c'est des noms d'arbres et de plantes. Gorostia, c'est le hou. Alitsa, c'est le chêne. On va visiter une classe de maternelle. Donc là, en maternelle jusqu'au CP, tout se fait en langue basque. Donc c'est vrai que l'immersion, c'est un passage obligatoire pour que l'enfant apprenne. Au CE1, on commence avec 3 heures de français par semaine, en CE2 également. Et en CM1 et en CM2, c'est 8 heures de français par semaine. Et en fin de compte, à la fin du CM2, nos enfants sont parfaitement bilingues, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler également des deux langues. Egunon.
Bonjour.
Egunon. Dingida.
Bai. Nik euskara soilik, eh? Vous ne parlez pas français?
Je parle un petit peu, mais je préfère dans la classe de parler en euskara. Je m'appelle Virginia, je suis la maîtresse de la classe de grande section. Aujourd'hui, nous travaillons les mathématiques. Baiet, hein? Denek euskaraz hitz egiten dugu beti. Hein? Euskaraz bizi gira. Bai, argi dugu.
Il y en a un qui peut me dire quand même ce qu'elle a dit là, votre maîtresse. Comment tu t'appelles? Maya.
Elle a dit que si on parle en basque.
Et alors, c'est vrai?
Oui.
Tu es dans cette école depuis la petite section, depuis que tu es petite?
Oui.
Tu apprends toujours en basque?
Oui.
À la maison, quelle langue tu parles?
Avec ma maman, parce qu'avec mon papa, un petit peu en français.
Tu t'appelles comment?
Mathis.
À la maison, avec tes parents, tu parles en quelle langue?
Français.
Donc, la majorité des enfants parlent le français à la maison?
Oui, la majorité, oui. Il y a des parents bascophones aussi, mais ils sont 6 ou 7.
Qui parlent
à la maison en basque. Les restes sont francophones, tous les parents. Dans les Castolas, c'est notre... Ce qui nous l'achète dans les mains, notre idéologie, ce n'est pas de parler en euskara, c'est vivre en euskara.
Cette enseignante, elle a appris le français, en fin de compte. On a des enseignants ou des enseignantes dans ce cas-là qui viennent du Pays Basque Sud, donc d'Espagne. Mais pour être titularisé dans l'éducation nationale, il faut parfaitement parler le français. Donc on a des cas d'enseignantes qui travaillent avec nous depuis 10 ans, qui n'arrivent pas à être titularisées de l'éducation nationale parce qu'elles parlent le français, mais pas assez pour avoir le concours, alors qu'elles vont enseigner uniquement en langue basque. Le son que l'on écoute, c'est la chalaparta. Donc c'est la sonnerie de la récré. La chalaparta, c'est un instrument ancestral basque où on met 3 bouts de planche, on va dire, et on tape dessus et on fait du rythme avec.
Donc là, c'est la récréation?
Oui.
Le feuilleton jusqu'à vendredi avec une petite pause jeudi puisque nous serons à Boulogne-sur-Mer. Réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. La polémique française, état agile ou état obèse, semble vieille comme le monde carrément. Le mot bureaucratie apparaît dans la deuxième moitié du 18e siècle. Le mot fonctionnarisme en 1872. Allez, un mot d'esprit qui va faire hurler de l'autre côté du poste. La France produit d'abondance le blé, le vin et les fonctionnaires.
Avec le livre dont je vais vous parler, Trop de fonctionnaires, une obsession française, on ne plaisante pas, Bruno. L'auteur s'appelle Émilien Ruiz, il est assistant de professeur à Sciences Po. Ça vous pose une institution française, hein, d'utiliser l'anglais. Ruiz voudrait que le débat public se fonde sur des chiffres et il prêche pour une histoire quantitative des fonctionnaires. Et alors surgit la première difficulté, la définition juridique du fonctionnaire n'ayant jamais été stabilisée, il est bien malaisé de fonder des comparaisons entre les époques, ni même de se mettre d'accord sur des chiffres globaux.
Bon, ça n'empêche pas beaucoup de leaders politiques de jeter sur la table d'innombrables propositions de diminution du nombre de fonctionnaires.
Saint-Just, déjà, devant la Convention, disait « il faut renvoyer ces milliers de sceaux qui empêchent la République d'avancer ». Un énarque de la promotion Saint-Just, Jean Choussa, nommé par la gauche, fin 81, directeur du budget, contribua à imposer ce qu'on appelle en novlangue une approche budget. Il dit d'abord zéro augmentation, puis il dessine à l'horizon l'objectif de 500 000 suppressions. Chiffre repris par Fillon, 2017, Juppé tablait plutôt sur 300 000, Macron 120 000, aujourd'hui Pécresse parle de 200 000, alors que Ciotti surenchérissait 250 000.
Oui, mais dans l'histoire, ceux qui proposaient d'élaguer le plus ont parfois été ceux qui embauchèrent le plus.
Dans l'entre-deux-guerres, un grand homme d'État de droite conséquent, André Tardieu, observait que l'augmentation du nombre des fonctionnaires était d'abord un effet de la multiplication des rôles qu'on attribuait à l'État. Et chacune des deux guerres va amener un palier inédit. Pendant la première, il faut bien organiser la production industrielle, le ravitaillement, et après la victoire, les régions libérées. Quant au régime de Pétain, c'est lui qui va recruter le plus.
Mais chaque fois qu'il y a une augmentation massive, il y a un mouvement inverse qui tente de revenir en arrière.
L'approche budget au début des années 20, c'est de supprimer quelques 40 000 postes. Il en reste toujours 140 000 de plus qu'en 14. Les communistes, après la Deuxième Guerre, eux-mêmes sont partisans de l'amputation, mais pour se débarrasser de ceux qui étaient entrés dans l'administration sous Pétain, à regarder les chiffres, le seul résultat auquel on est parvenu après les guerres, c'est le ralentissement de l'augmentation.
Alors, où y a-t-il du jeu, selon l'historien ?
La frontière mouvante entre titulaires et contractuels, des fonctions d'autorité peuvent être exercées maintenant par des contractuels qui sont seulement de passage. Pour défendre cette option, Emmanuel Macron a ainsi repris le vocabulaire qui dénonce l'immobilisme d'un État profond, établi, qui s'opposerait à l'esprit de réforme. Les titulaires, on le sait, s'inscrivent dans un statut. On a oublié que la première mouture en a été rédigée sous Pétain, toujours lui, en 41, avec l'intention de surveiller les fonctionnaires. Les dispositions en vigueur aujourd'hui datent de 46, 83. Elles garantissent l'indépendance des personnels. Alors l'hypothèse d'Emilien Ruiz, les diminutions à la hache affichées dans les campagnes électorales étant inatteignables, le seul objectif réel qui est peut-être visé, c'est la modification profonde, voire le renversement du rapport titulaire contractuel. Et ça, c'est en effet possible.
Émilien Ruiz, trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française.